Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat jusqu'à 19h entre Marion Pariset, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste en politique publique, secrétaire général du Millénaire. Bonsoir à Benjamin Morel.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. On vient de parler du sujet dont tout le monde parle depuis, j'allais dire 3 semaines, mais... récemment encore, parce qu'il y a 26 mineurs isolés qui ont fugué dans le groupe de migrants qui sont arrivés par l'Ocean Viking. Benjamin Morel, alors, sans rentrer dans le dictionnaire d'Alloz, mais expliquez-moi, on a le président de la République qui, le week-end dernier, avant de partir pour le G20, alors qu'il était au Forum pour la paix, a dit « Attendez, on ne va pas traiter de l'immigration en France avant d'avoir, revu toutes les règles européennes sur l'immigration. » Expliquez-moi, faut-il savoir balayer devant sa porte en disant « faut d'abord avoir nos propres règles en France sur l'immigration pour pouvoir avoir un dispositif efficace » ou est-ce qu'il faut attendre que les 27 se mettent d'accord ?
Alors, il ne faut pas forcément attendre que les 27 se mettent d'accord. Il faut voir qu'il y a deux niveaux de problème. On a un niveau qui est en effet un niveau communautaire. Du point de vue communautaire, on a aujourd'hui un système qui est fondamentalement dysfonctionnel. Frontex a les mauvaises instructions, elle ne fait pas réellement son boulot. De l'autre côté, on a des pays qui sont fortement attractifs ou d'autres qui ne jouent pas le jeu eu égard aux différents règlements européens qui devraient permettre d'avoir à la fois une gestion des frontières, mais également une répartition des migrants.
Là, ce que vous me dites, c'est de l'applicabilité, c'est-à-dire qu'il y a des règles, mais elles ne sont pas appliquées.
Alors, ça, en tout cas, au niveau européen, elles ne sont pas appliquées. Et au niveau français, elles ne sont pas réellement appliquées non plus. On va avoir une loi immigration bientôt. Il faut voir que l'idée qu'il faut mieux exécuter les OQTF, elle n'est pas nouvelle. Écoutez, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il y a 20 ans, il dit la même chose. On a eu une loi Sarkozy, ensuite on a eu une loi Besson, on a eu une loi Hortefeux. Après la loi Hortefeux, on a eu une loi Valls, ensuite on a eu une loi Collomb. Et là, on va avoir une loi Darmanin qui porte sur le même sujet. Le problème n'est pas dans notre droit. Alors, on peut évidemment changer quelques virgules. Le problème est dans l'application du droit. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il n'y a pas assez de juges. Les juges sont débordés. Donc, du coup, ils ne peuvent pas juger assez vite. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe avec les OQTF ? On n'a pas laissé passer consulaire parce qu'on ne rentre pas dans un bras de fer diplomatique.
Il y a des questions de délai qui sont trop courtes aussi.
Il y a des questions de délai qui sont trop courtes. Mais ces questions de délai, en réalité, sont un problème qu'on peut tenter de régler, mais qui est malgré tout relativement marginal. Parce qu'on n'a pas assez de place en centre de rétention. Et donc vous pouvez considérer toujours que la personne doit quitter le territoire. Si vous n'avez pas le laissez-passer consulaire d'un côté, si vous n'avez pas de centre de rétention de l'autre, eh bien en réalité, vous n'avez qu'un choix, c'est au bout du compte la laisser partir. Et donc pour ce faire, tant que vous n'avez pas les moyens et la volonté politique, vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez, ça ne changera pas le problème.
Marion Pariset, sur ce problème tentaculaire.
Oui, alors il y a un problème de moyens, c'est certes. Mais par exemple, quand on prend la question des centres de rétention administrative, on voit bien aussi que le nombre de personnes qui sont relâchées, on va dire, après l'atteinte du temps, du délai autorisé, en fait, ne représente qu'une minorité des cas de personnes qui sont retenues. La plupart sont relâchées parce que le juge des libertés intervient, vice de procédure, sur différents aspects, qui sont des failles qui sont beaucoup plus importantes. Alors après, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que, du coup, c'est la question de la façon dont sont récoltées les différentes informations à propos de ces personnes-là, ou est-ce que c'est simplement aussi peut-être une doctrine interne en justice, qui peut être appliquée par le juge des libertés pour pouvoir arriver à ces chiffres où, en effet, on a augmenté le nombre de jours de rétention possible en centre de rétention administrative depuis plusieurs années. On est maintenant à 90 jours, si je ne me trompe pas. Mais ça ne reste pas forcément la principale cause. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement aussi de la justice. On a vu le cas des quelques-uns qui n'ont pas pu être pris en CRA et qui, du coup, ont dû être lâchés automatiquement. Mais tous ceux qui sont déjà en CRA, il y a aussi cette question de comment on fait pour effectivement traiter les cas et ne pas avoir à chaque fois des vices de procédure et des gens qui sont remis en liberté ou des OQTF qui ne sont pas appliqués. Et là, on est dans l'ordre du politique et aussi, je pense, de la doctrine, vraiment, de la justice.
Oui, mais du coup, c'est aux politiques de changer les choses.
Je pense que c'est
ce
aux politiques
de... les sages
notamment.
De la justice qui vont eux-mêmes se saisir du dossier.
Non, parce qu'en réalité, il y a deux logiques.
Benjamin Morel.
Il y a deux logiques qui mènent à ça. Vous avez une première logique qui tend à, de manière très très contradictoire, accroître les garanties en matière de liberté. Sur le principe, c'est très bien. Mais plus vous avez de garanties, plus vous avez potentiellement de vices de forme, etc. Mmh. Parce qu'en réalité, eh bien, vous avez des moyens qui, là encore, ne suivent pas. Parce que pour arriver à mettre en place toutes les procédures, pour que ces procédures soient tatillonnement menées, eh bien, vous avez besoin de beaucoup plus de personnel, mmh. vous avez besoin de former ces personnels. Première logique de défaillance. Ensuite, ce que disait Marion Parisé est très vrai, mais la réalité, c'est que cette doctrine-là, elle est liée également au nombre de places. Même chose pour lorsque l'on se plaint d'une justice qui ne serait pas assez sévère et qui n'enverrait pas des délinquants en prison. Mais en réalité, que font les juges ? Ils considèrent le nombre global de places de prison mmh. et la gravité de la sanction eu égard au nombre de places. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas assez de places en prison, vous pouvez toujours... Et là, idem, c'est-à-dire que si vous avez...
C'est presque au doigt mouillé ce que vous me dites, parce que là, j'entends bien qu'il y a une intime conviction, mais...
Prenez le cas, par exemple, de la personne sans papier qui, récemment, a agressé une femme dans un TER. On en a beaucoup discuté ces derniers jours. Et qui n'a pas été envoyé en centre de rétention ni en prison. Parce qu'en réalité, les juges ont considéré que, eh bien, il n'y avait pas réellement de risque par rapport à cette personnalité, non pas qu'elle n'en présentait aucun, mais par rapport aux autres personnes qui pouvaient potentiellement être placées, elle présentait un risque moindre. Donc dès le moment où vous n'avez pas assez de places de prison, que vous n'avez pas assez de places en centre de rétention, eh bien vous priorisez, et donc vous avez des individus qui, a priori, normalement, devraient y être envoyés, mais d'autres, a priori, eh bien, représentent plus de risques, donc on les envoie en priorité.
Ce qui est fondamental, qui est vraiment problématique dans cette approche, c'est qu'en final, on ne définit plus la sanction, la condamnation par rapport à l'action et par rapport aux conditions, mais par rapport aux moyens de mise en œuvre. Et donc, on a vraiment pour moi, c'est marcher sur la tête. C'est-à-dire qu'on va définir ce qu'on va choisir, comment on sanctionne une action, pas par ce qui a été fait, mais par ce qu'on est capable d'appliquer. Et ça participe de la façon dont la justice se délégitimise au fur et à mesure et perd de son essence et perd de sa capacité à être crédible en tant qu'institution, au final.
Je ne peux pas être pessimiste, mais enfin, ce n'est pas étonnant, d'après ce que vous me dites, qu'on dégringole dans tous les classements des puissances mondiales.
C'est lié à ça parce qu'on a profondément, en fait, justement, ce moyen qui devient plus fort que le principe même de justice. Et ça, c'est ce que ressentent, je pense, aussi les citoyens quand ils entendent parler des cas, des personnes qui sont relâchées, etc. C'est ce côté-là, c'est cette justice qui est incapable d'aller appliquer effectivement les lois qui sont définies et qui sont la représentation des choix politiques des citoyens. Et là, on a fondamentalement encore la dissociation, le décalage, la rupture de confiance qui se fait entre le citoyen et les institutions de l'État.
Et ça participe à la crise démocratique, c'est-à-dire que lorsque vous voulez dire qu'en tant que ministre, vous allez régler un problème, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous faites une loi.
Une loi.
Et cette loi, vous dites, ben voilà.
Elle porte le nom du ministre.
Exactement. La question de l'immigration, ma loi va régler tous les problèmes. La question de la sécurité, ma loi va régler tous les problèmes. Mais en réalité, comme on le disait tout à l'heure, je citais le nombre de lois sur l'immigration.
Oui, c'est un
votre
problème
loi,
d'applicabilité.
Exactement. Ne règle rien. Et donc, vous corrigez 3 virgules, vous êtes très très content, vous donnez de l'espoir dans l'opinion sur le fait qu'on va pouvoir régler le problème, sauf que le problème, encore une fois, n'est pas législatif. C'est un problème politique, c'est un problème de moyens. Et là, évidemment, mettre de l'argent sur la table, c'est beaucoup plus difficile que faire voter une nouvelle loi.
Et d'ailleurs, peut-être une meilleure illustration récente qu'on a eue, ce sont les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui, justement pour protester contre à la fois le dysfonctionnement et les lenteurs de la justice en matière de violences sexuelles et sexistes. Mmh. Mais on pourrait prendre bien d'autres domaines de compétences justement de la justice où malheureusement ça coince par des problèmes d'applicabilité. Et d'ailleurs, on en parlera demain soir à 19h30 dans Panorama avec justement une magistrate et un avocat.